Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B90 FM pour son émission au Café littéraire. Et en ce mois de mai, je ne peux passer sous silence celui de mai 1945, évoquer vraiment cette grande victoire, mais aussi... Il y a eu beaucoup de souffrances tout au long de cette Deuxième Guerre mondiale. Donc, je reviens sur ce thème-là en commençant par un livre d'histoire de Charles Zorgbib qui s'intitule « Une histoire du monde depuis 1945 », sur lequel je reviendrai plus longuement plus tard, mais... C'est un fait que le second conflit mondial qui s'achève le 8 mai 1945 en Europe, avec la capitulation du Troisième Reich, et le 14 août en Extrême-Orient avec celle du Japon, a été un conflit total, du jamais vu. C'était vraiment un conflit total. D'après Charles Zorgbib, qui est vraiment un grand critique. Conflit total pour au moins trois raisons. Total par les objectifs poursuivis. Pour l'agresseur, qui était l'Allemagne nazie et ses satellites ou associés, il s'agit non seulement de subjuguer l'ennemi, mais aussi, lorsque le régime s'effondre, d'éliminer de la surface de la planète des peuples ou des ethnies qualifiées d'inférieures, par des doctrines surgies du tréfonds du subconscient collectif. En retour, pour la coalition des alliés, lorsque le sort des armes change, vaincre ne suffit pas. Et c'est ça qui est terrible. Il faut obtenir la capitulation inconditionnelle des puissances de l'Axe et substituer à leur régime politique de nouveaux systèmes constitutionnels inspirés du principe démocratique. Total, conflit total aussi par les moyens militaires mis en œuvre, qui sont l'objet de révolutions techniques successives, avec la guerre aérienne qui avait déjà porté l'affrontement au-delà du champ de bataille et annihilé la distinction entre le front et les arrières, avec ses innombrables bombardements et destructions. Mais l'apparition de l'arme atomique, voilà, constitue une véritable mutation dans l'histoire du monde. Au lendemain des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, l'humanité, il s'agit bien de l'humanité, semble mise en possession de sa propre mort. Désormais, sous la menace nucléaire, elle sera chaque jour, à la veille de la fin des temps. Une situation inédite et terrifiante, qu'il s'agit de dénoncer, mais aussi peut-être de prévenir, enfin de faire quelque chose pour que cette fin des temps n'arrive pas. Et dans ce récit historique de Charles Zorgbib, eh bien, il retrace la suite de cet événement dramatique, l'histoire depuis 1945, avec la poursuite des 75 années qui ont changé la face du monde. Ça, c'est aux éditions de Fallois que vous pouvez le trouver, le lire attentivement pour comprendre l'histoire actuelle presque, depuis 1945, comment avec la diplomatie on va, et même les événements vont se changer, vont se mettre en place. Mais pour prendre conscience de cette folie des hommes qui acceptent cette idée de la mort et de la destruction de masse, à partir du cœur de l'atome. Le cœur de l'atome, c'est la vie, c'est vivant, l'atome. Et on l'a utilisé pour détruire des villes. Il y a une méditation de la nuit. Traversée, une longue nuit, traversée par quatre personnalités étonnantes pour parvenir à la lumière divine. C'est un livre, une merveille d'écoute et d'évocation que je viens de découvrir, qui s'appelle « Quatuor mystique » d'une femme au style magnifique. Elle s'appelle Charlotte Joussaume, qui, avec son écoute, ses mots et son doigté de femme, met en pleine lumière quatre traversées de la nuit. Celle de Jean de la Croix, le grand poète Jean de la Croix, celle de Pierre Teilhard de Chardin, qui se trouve dans ce livre dans l'aridité du désert des Ordos, voilà, d'un personnage qui s'appelle Silouane et qui vit au mont Athos en Grèce, et puis Maurice Zundel. Et c'est ce dernier qui est anéanti par cette annonce en août 1945. Il se trouve au Caire quand il apprend ce drame, un petit peu, cette fin, ces deux bombes atomiques lâchées sur deux villes afin de les rayer de la carte et de contraindre le Japon à capituler. Que l'on soit croyant ou pas, il faut prendre conscience de la folie des hommes et de leur inconséquence, puisque je l'ai dit un peu avant, que peut-être qu'on va se détruire nous-mêmes avec cet atome. Le cœur de l'atome, c'est le vivant et non la mort de l'humanité. Voilà pour ce qui est un peu de l'évocation de ces événements de 1945. Il y a aussi des romans qui ont pour sujet cette même époque, 1940-1945, celle que l'on a appelée la drôle de guerre, avec un premier roman que je vous avais déjà présenté, celui qui s'intitule « Par amour » de Valérie Tong-Kyong, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de ces deux sœurs, deux femmes, de leur mari et de leurs deux enfants. Chacune ont deux enfants, situés dans ce contexte et en grande partie au Havre. Havre qui est occupé par les Allemands et qui sera détruite par les Alliés à la fin de la guerre. Donc là, on retrouve encore ces bombardements, ces destructions d'une ville. Il y en a eu d'autres aussi, Brest aussi, je sais, mais là, nous sommes au Havre, avec une partie qui s'occupe pour deux enfants en Algérie à cette époque. Voilà pour ce roman « Par amour » de Valérie Tong-Kyong, qui est vraiment le meilleur de ses romans, très puissant et très émouvant aussi. Il y a aussi cette « Terre promise » de Erich Maria Remarque, inédit en France, qui est paru aux éditions Stock. Pour moi, c'est une véritable découverte littéraire. Son personnage central, c'est Ludwig Sommer, qui est un jeune Allemand pourchassé par les nazis, qui arrive enfin, après tout un périple, à rejoindre les États-Unis, en passant par la Belgique, et la Hollande, la Belgique, la France, et puis descendre par le Portugal, l'Espagne, le Portugal, pour pouvoir partir aux États-Unis. Son permis de séjour en poche, grâce à quelques avocats, il part à la découverte de cette terre promise dont les richesses semblent inépuisables. Mais les souvenirs et blessures de la guerre 39-45, toujours vivaces, remettent en question la possibilité d'un nouveau départ. Puis cette société américaine semble assez fermée aux étrangers. C'est ce que l'on découvre en tout cas dans ce livre, parce que s'il n'y avait pas eu quelques avocats pour avancer de l'argent, pour avoir les passeports, et pour des passeports de touristes, hein, parce que les émigrés ne peuvent plus rentrer aux États-Unis, donc on découvre cet aspect de la société américaine. C'est vraiment superbe par cette écriture fine et même élégante, mettant en scène une incroyable communauté d'exilés, tout en offrant une réjouissante satire de la société américaine et de la culture des nouveaux riches, parce que il y a des marchands d'armes qui deviennent riches et qui s'adonnent, qui veulent faire pour eux des collections de peintres, de peintures ou de galeries d'art ou de voilà. C'est la découverte des peintures des impressionnistes français, voilà, qui sont partis comme par hasard en Amérique. Voilà. Donc tout ça, on retrouve finement décrit, exprimé dans ce remarquable roman, Cette terre promise de Éric Maria Remarque. Inédit en France, parce que l'auteur bien sûr est mort maintenant, c'est lui, Remarque, qui avait écrit « À l'Ouest, rien de nouveau », un magistral roman sur la Grande Guerre de 1914-1918, paru en 1929, aux éditions Stock, et que l'on peut trouver, moi je viens de le relire, en livre de poche, tout simplement en livre de poche. Il n'a pas pris une seule ride. Ce roman est cet ouvrage qui fut brûlé en place publique par les nazis, a atteint son, donc pendant la seconde, au début de la Seconde Guerre mondiale, a atteint son 8 millionième exemplaire. Voilà. Donc un grand, grand succès de librairie. Et Éric Maria Remarque est resté fidèle à la vocation qui animait son premier roman. Il en a écrit un deuxième, un d'autre aussi, mais un, disons, un qui s'intitule « L'étincelle de vie ».« L'étincelle de vie », un très très beau titre qui convient vraiment très bien. « L'étincelle de vie », paru chez Plon dans les années 1956, voilà, avec une très très bonne traduction de Michel Tournier. Une introduction aussi de Michel Tournier avec cette traduction. Là, j'ai pu trouver une œuvre, cette œuvre-là, parce qu'on la trouve plus facilement en librairie, parce que je voulais vraiment le lire. Et donc cette œuvre, L'étincelle de vie, peut être considérée comme la réplique pour la Deuxième Guerre mondiale de ce que fut à l'Ouest rien de nouveau pour la première. Et comme la tranchée avait été le boueux symbole de la grande tragédie de 1914-1918, le camp de concentration dans ce roman, L'étincelle de vie, le camp de concentration est l'univers fermé et simplifié où s'agitent les fantomatiques personnages de son dernier roman. Voilà. Remarque, qui avait passé les années de guerre aux États-Unis, c'est ce que l'on découvre dans son roman Cette terre promise, puisqu'il l'a écrit, donc on sent bien qu'il a vécu dans cette terre promise, qu'il a même fait du cinéma, donc il a été vers Hollywood. Donc, parce que les Allemands lui en voulaient, donc il a dû fuir assez tôt l'Allemagne pour aller se réfugier aux États-Unis, avant les événements terribles. Donc il est aux États-Unis. Il n'a pas connu l'horreur des camps de concentration. Mais il s'est entouré pour écrire son livre d'une documentation immense. Ça, c'est vraiment tel que pas un seul fait rapporté n'a été inventé. Une documentation immense, tel que pas un seul des faits rapportés n'a été inventé par lui. Ce camp de concentration, le camp de concentration qui sert de cadre à l'étincelle de vie, est purement imaginaire. Mais il constitue pourtant en quelque sorte un type idéal dont tous les traits sont empruntés à des camps ayant réellement existé. C'est ça qui est extraordinaire dans ce livre. Et on peut dire, avec le recul nécessaire, que son livre est le plus concret de tous ceux qui ont trait au camp de concentration. Donc, c'est vraiment exemplaire. Le camp de Mélène, ça s'appelle comme ça, c'est le camp de Mélène dans lequel l'auteur y met face à face deux personnages, le commandant nazi du camp et un déporté qui organise la résistance et la rébellion. Voilà. Un grand, grand roman, vraiment. Et puis, ce roman est aussi un hommage à sa sœur cadette Elfried. Sa sœur cadette Elfried, il y avait vraiment beaucoup de tendresse entre ce frère et cette sœur, voilà, cette sœur cadette, son frère chéri, parce que elle va mourir tragiquement pour avoir dit en 1943 à une cliente, elle était couturière, que l'Allemagne perdrait la guerre. Donc en 1943, elle avait déjà annoncé que l'Allemagne perdrait la guerre et elle avait été dénoncée, arrêtée, condamnée à mort et guillotinée. Voilà. Son frère, donc, comme je l'ai dit, était aux États-Unis. C'est non donc que 2 ans après qu'il a su ça et qu'il a voulu, en écrivant ce livre-là, lui rendre un hommage tout à fait grandiose. Voilà. Éric Maria Remarque est un véritable humaniste, conscient que l'humanité est sans cesse menacée et la possibilité pour elle de disparaître est toujours ouverte. Vous voyez qu'on retrouve ce thème à la suite des bombes d'Hiroshima et Nagasaki, de la disparition de l'humanité. Donc la possibilité pour elle de disparaître est toujours ouverte et il faut la sauver, la reconquérir à chaque instant, protégée peureusement par des hommes traqués, sans cesse obligés de ruser pour rester des hommes, tout simplement des hommes libres. Voici donc ce roman remarquable à essayer de lire, peut-être qu'en bibliothèque on peut peut-être le trouver. L'étincelle de la vie. Voilà, l'étincelle de la vie, c'est merveilleux. Vraiment, je vous assure. L'étincelle de vie, pas de la vie, de vie, de vie. Je voulais aussi vous parler de La fille du fossoyeur de Joyce Carol Oatt, édité par les éditions Philippe Ray. C'est en fait une remise en vente parce qu'il était paru en 2008-2009. Je ne l'avais pas lu à ce moment-là. Mon regard était attiré par d'autres œuvres littéraires. Et donc, maintenant que j'ai vu qu'il ressortait, j'ai voulu mettre mon nez dedans et le lire attentivement, parce que c'est vrai que je l'ai lu attentivement, La fille du fossoyeur de Joy, de cette grand écrivain américain, Joyce Carol Oatt, qui écrit dans différents genres, des policiers, pas mal, mais cette fille du fossoyeur est considérée par la presse comme un roman sombre et mélancolique, une perle noire, une véritable perle noire. En fait, donc, comme je l'ai dit, c'est une remise en vente de ce roman de cette américaine. Il est dérangeant et captivant, dans lequel, en 1936, on retrouve une famille qui s'appelle Schwart, une famille d'émigrants. Voilà pourquoi je voulais le lire, pour faire une comparaison entre sa vision d'une famille allemande pourchassée, qui est obligée de fuir, d'arriver en Amérique, d'émigrer en Amérique, avec le père Jacob, le père qui s'appelle Jacob, la mère qui s'appelle Anna, et les 3 enfants, 2 fils déjà grands, et une dernière, une fillette, Rebecca, qui est la véritable héroïne de ce roman. Elle est bébé lorsqu'il débarque en Amérique, mais lorsque l'on prend le livre, elle est grande, elle a déjà 7-8 ans. Voilà, c'est une fillette qui va grandir, qui va... Et à la mort de ses parents, eh bien, les deux fils sont déjà partis, ils ont échappé à la dureté du père, qui est un personnage dur, très dur. Et donc, ce roman, j'ai bien compris, est un hommage de la part de Joyce Carol Oatt sur l'une de ses grands-mères qui s'appelait Anna Morgenstern, voilà, et qui avait dû fuir l'Allemagne, les camps de l'Allemagne. Donc, vous voyez qu'il y a un rapport entre ce roman, La fille du fossoyeur, et le précédent, donc, Le camp de Mélène, voilà, décrit dans L'étincelle de vie de Erich Maria Remarque. Alors, ils ont dû fuir l'Allemagne nazie. Malheureusement, le quotidien de cette famille sera fait d'humiliation, de pauvreté et de frustration. Le fait d'être un fossoyeur gardien d'un cimetière, pour lui qui a été professeur et imprimeur, vraiment, c'était de descendre vraiment en bas de l'échelle de la société et devenir. Et pour elle, eh bien, du fait qu'elle était née en Amérique ou sur le bateau en Amérique, on ne sait pas trop bien si c'est sur le bateau ou elle était déjà sur le sol américain, c'est difficile pour elle d'être acceptée par les Américains comme une Américaine reconnue par cette société. Et ce sera vraiment une chose difficile pour Rebecca. Elle va se grandir, devenir une femme, se marier, avoir un enfant, un mariage difficile qui semble prometteur au début, mais difficile parce que cet homme est violent. Et donc elle devra le fuir, partir, disparaître sous un autre nom, Hazel John, et son fils, qui s'appelle à ce moment-là Zach, qui deviendra un grand pianiste. La dernière partie de ce livre, de 659 pages quand même, hein, devient effectivement lumineuse avec l'amour et la musique. Voilà. Donc on va faire une pause musicale pour aborder la vie d'un autre grand écrivain qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Max Gallo. On écoute un premier nocturne de Chopin joué par Maria João Pires. Voilà, le premier nocturne numéro 1 de Frédéric Chopin, joué par Maria Juaro Pires. Si vous aimez cette belle musique, sachez que la grande pianiste Choco Gamo va venir bientôt à Bourg-en-Bresse pour deux concerts, le jeudi 18 et le samedi 20 mai, à l'auditorium de Perona. Donc ça, ce sera aussi, elle jouera du Frédéric Chopin. Ce sera aussi vraiment un très grand moment. Voilà, je suis presque chargé de l'accueillir pour le Val d'Orphée. Voilà. Donc je reviens sur Max Gallo. Grâce à un roman, un récit, c'est pas un roman, de Marielle Gallet. Je ne connaissais pas Marielle Gallet, qui est avocate et romancière, et avec son nouveau récit qui vient de sortir, qui s'appelle Bella Ciao, c'est le nom de cette chanson que vous connaissez sans doute, toute une époque éditée par Grasset. Bella Ciao, c'est un air, une chanson qu'il chantait, parce que c'est vrai que Max Gallo a des origines italiennes. Voilà, Gallo. Je vais donc. Et alors, elle est l'épouse de l'académicien Max Gallo, qui aujourd'hui est atteint de la terrible maladie de Parkinson. Terrible parce qu'il n'y a pas de guérison vraiment, qu'il y a différents types de maladies Parkinson et que ce n'est pas toujours facile de vivre avec. Alors, écoutons-la pour deux passages, deux extraits de ce livre Bella Ciao qui vient de paraître donc aux éditions Grasset. Quand j'ai rencontré Max Gallo en 1993 et quand il a chanté Bella Ciao pour me séduire, je ne pensais qu'à l'amour et à la vie, à la politique aussi, puisqu'elle nous avait réunis. La question de l'âge et de la maladie, je n'y songeais guère. Je croyais même que ni l'un ni l'autre n'atteindrait jamais le colosse, l'historien prolixe, l'immortel, puisque c'est un académicien, l'immortel que j'aimais. Et je me trompais, car quand la maladie s'est imposée, nous avons dû faire face à Miss P, comme l'appelait François Nourricier, qui a eu aussi cette maladie de Parkinson. Enfin, nous avons essayé, car le désespoir, chaque jour, était en embuscade. Puis je me suis mise à écrire, à raconter les choses comme elles sont, avec mon désarroi, avec ma sincérité. Et je trouve que c'est tout à fait, pour moi, remarquable que ce Bella Ciao. C'est aussi, s'il parle d'une embuscade, d'un drame terrible, c'est aussi une très belle histoire d'amour entre une femme et un homme. Donc je vous lis un deuxième extrait de ce livre qui pour moi est vraiment très très bien, vivant, tout est nuancé mais aussi plein d'ardeur. Du temps de ses travaux de galérien, comme les biographies de Napoléon et de De Gaulle, et du succès médiatique qui s'en suivait, Max Gallo, avait toujours autant besoin de l'autre, de son fils, de quelques proches, et de moi bien sûr. Mais à l'époque, c'était seulement en fonction de sa disponibilité à lui. Comme elle était restreinte, je disposais de beaucoup de temps, et mon indépendance lui convenait. Je lui disais alors qu'il avait de la chance d'avoir épousé une femme qui ne s'ennuie jamais, qui reste silencieuse dans son petit coin à écrire sur son ordinateur des heures durant. C'est ce que lui faisait aussi de son côté, surtout la nuit, jusqu'à ce que son mari ait fini de travailler et sonne la récréation. Il me rétorquait que cette situation m'arrangeait, que j'y trouvais mon compte, et il avait raison. Si j'ai choisi d'accepter les impératifs de son emploi du temps, de céder à ses caprices aussi, c'est que cette soumission ne m'a aucunement empêché de m'épanouir. En revanche, et contre toute attente, elle a consolidé mon autonomie, une autonomie qui le surprend tellement aujourd'hui. Désormais, condamné au désœuvrement, Max souhaiterait avoir quelqu'un auprès de lui en permanence. La femme de ménage vient le matin. Ensuite, il sollicite donc son fils Julien ou moi, car il refuse toute assistance étrangère. Que nous puissions avoir d'autres obligations l'effleure à peine. Il est trop prisonnier de son mal pour y songer. Julien a 30 ans, il est jeune, marié, promis à une belle carrière universitaire. J'ai 3 fils, des belles filles, 4 petits-enfants, ma mère, mes sœurs et leur famille, Constance, des amis. J'ai une vie en dehors de Max. Mais avec ma complicité, il ne s'en soucie guère et je ne lui en tiens pas rigueur. Par 2 fois, j'ai essayé d'introduire quelqu'un qui aurait une compétence professionnelle pour lui prodiguer des soins corporels, le contraindre à quelques exercices physiques, en vain. Max a raccompagné jusqu'à la porte avec courtoisie la première puis la seconde postulante. Sa capacité de dire non est intacte et Julien et moi, nous nous inclinons. Je dois donc me tenir à sa disposition, corps présent ou par téléphone, si bien que réussir à m'isoler, à me couper de toute communication, à m'envelopper de silence est devenu un luxe. Un luxe certes, mais pas un superflu, car ce refuge en moi parvient à m'apaiser, à reconstituer mes forces, à régénérer ma bienveillance. Je suppose que ceux ou celles qui accompagnent un malade ressentent aussi ce besoin de reconstituer leurs forces pour éviter de flancher. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé être seul. Non pas que ma propre compagnie soit captivante, mais je dois trouver le temps de me recueillir en moi-même, de reprendre possession de mon esprit, de reconnaître mien les sentiments que j'éprouve. Depuis que Max est malade, le moment opportun est celui où le jour décline dans la nuit montante. Il dort de son premier sommeil, le naturel donc, le meilleur. Il s'éveillera vers 21h, prendra une première collation avec les médicaments préparés à l'avance dans une coupelle. Ce sont les plus difficiles à doser pour éviter les insomnies, les hallucinations et les appels téléphoniques intempestifs. Depuis notre visite chez le neurologue et les modifications du traitement qu'il a prescrites, il me semble que les nuits de Max sont moins agitées, donc les miennes bien meilleures. Voilà, j'arrête là cette lecture d'un fragment de ce livre tout à fait splendide. Vraiment, c'est beau, c'est merveilleux. On les voit, donc ils vivent à Paris, place du Panthéon, voilà, on va dans différents cafés, restaurants, pour manger, pour boire. Donc toute cette vie est merveilleusement bien restituée entre Marielle et Max Gallo, et puis donc avec ce désarroi, avec cette terrible maladie qui vient là, mais qui n'empêche pas quand même Max Gallo de travailler, de continuer son œuvre. Donc j'ai un autre livre qui est, parce que j'avais vu que dans ce Bella Ciao de Marielle Gallet, elle parlait de l'autobiographie, du livre Mémoire de Max Gallo lui-même, qui s'appelle L'oubli et la ruse du diable. Alors j'ai voulu, bien sûr, c'était tellement beau, en retrouver le grand Max Gallo que l'on connaît, les mémoires d'un immortel. Donc je me suis procuré ce L'oubli et la ruse du diable, qui était paru déjà chez Ixo, qui est son éditeur. Ixo est l'éditeur donc de Max Gallo. Et donc, il avait déjà publié L'oubli et la ruse du diable en 2012. Et là, il est ressorti. On peut le trouver, vous pouvez le trouver en pocket. Donc, un peu moins cher qu'en grand format. Voilà. Ce pocket, ces mémoires de Max Gallo, L'oubli et la ruse du diable, c'est beau, c'est fort, c'est déchirant. Ces mémoires de Max Gallo sont sans doute son plus beau livre, dit Nice Matin. Max Gallo est originaire de Nice, d'Italie. Sa famille vient d'Italie, vous allez le savoir. Je vais vous lire un autre passage. Mais c'est vrai que Il est né à Nice, donc tout ça, donc il y a toute une partie de sa vie qui se passe à Nice ou en Italie, non loin de Nice. Nice, il y avait un Nice français et un Nice italien d'ailleurs à cette époque-là. Alors il dit que ma machine à écrire, dans ses souvenirs, Max Gallo rapporte que ma machine à écrire était posée sur une caisse. Je m'asseyais à même le sol, jambes écartées, serrant la caisse entre mes cuisses. Je ne voyais plus que le clavier, mes doigts et ces phrases qui, alignées, régulières, me semblaient dictées par une voix qui naissait dans ma poitrine et emplissait ma bouche d'une salive âcre. Ces mots collés l'un à l'autre allaient devenir des essais, des livres. Je le savais, je le voulais. C'était ça mon vrai destin. Et non pas une vie d'apparence qui n'était qu'apparence. Un jour, je n'aurais plus à donner le change et à apprendre à faire fonctionner une fraiseuse, à ajuster une queue d'aronde, à subir les sarcasmes d'un professeur d'atelier qui m'accusait de n'être qu'un bon à rien. Un jour, je serai libre et je serai écrivain. Et c'est ce que Max Gallo est devenu. Agrégé d'histoire, docteur ès lettres, longtemps enseignant, Max Gallo a toujours mené de front une œuvre d'historien, d'essayiste et de romancier, s'attachant à restituer les grands moments de l'histoire et l'esprit d'une époque. Il est aussi l'auteur de biographies abondamment documentées sur de grands personnages comme Napoléon, De Gaulle, César, Victor Hugo, Louis XIV, Jésus, François Ier, avec en 1940 un texte sur 1940 de l'abîme à l'espérance, qui était paru en 2010. Il a initié une grande histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, on retrouve ce que j'ai dit au début de cette émission, achevé en 2012 avec 1940-1945, Le triomphe de la liberté. Il est également l'auteur d'une histoire de la Première Guerre mondiale, composée de 1914 à 1918. Voilà. Donc, L'oubli et la ruse du diable, paru en 2012, vous pouvez donc le retrouver en pocket. Je vous lis un autre passage de ce livre, donc de ses mémoires de Max Gallo. Un mélange, vous allez voir, entre justement l'histoire, la grande histoire ou l'époque historique, et puis les faits du jeune garçon qu'il était à ce moment-là. Je n'étais pas une pourriture d'Italien. Donc je vous ai dit parler qu'il y avait Nice, il y avait un côté italien, on allait en Italie et puis on revenait en France, donc il y avait un passage de... Voilà. Je n'étais pas une pourriture d'Italien. Je l'ai hurlé aux frères et aux neveux de ma grande-mère, chez qui elle et moi avons passé les mois de juillet et d'août 1938. Voilà, nous sommes donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Il possédait une ferme, une laiterie dans les environs de Guastalla, une petite ville proche de Modène, de la région Emilia. J'y avais déjà séjourné plusieurs fois. Heureux d'être parmi ces hommes de haute taille, enthousiastes et laborieux, levés dès l'aube, trayant les vaches, modelant des formes de parmesan, grosses roues de pâte meuble dont ils découpaient des lanières que je mâchonnais. Ma grand-mère était redevenue Italina, c'est le nom de sa grand-mère, dont il a une grande admiration, Italina. La mora des Gasparini, commandant à ses frères maniant comme eux ces longues cuillères de bois avec lesquelles il brassait le lait qui bouillonnait dans de grandes cuves. Un soir, alors que s'étirait un interminable crépuscule, l'un des neveux de ma grand-mère, Danilo, m'a dit, en me donnant l'accolade, « Tu es de notre race, toi !» Voilà. Il ajouta, « Nisa Nostra, c'est-à-dire ce Nice est à nous », que j'avais déjà entendu quand nous avions franchi la frontière à Menton. Des miliciens en chemise noire, le poignard au côté, le baudrier serrant leur torse coiffé d'un fez noir, auquel était accroché un gland de fil vert blanc et rouge, l'avait crié. J'avais voulu répondre, mais ma grand-mère avait posé sa main noueuse sur ma bouche. Voilà. J'avais baissé la tête, murmuré ces mots « pourriture d'italien », cette gifle qui m'avait brûlé les joues. J'avais voulu en parler à mon père, mais il eut fallu que je lui avoue que presque chaque jour, je gagnais le toit, mon donjon, mon refuge, et puis le moment, je l'avais senti, n'était pas propice au jeu d'enfant. Tous les soirs, mon père retrouvait ses camarades devant la façade du petit Niçois pour lire. Voilà, on retrouvait des façades où il y a des panneaux blancs sur lesquels il y avait les pages du journal Le Petit Niçois qui étaient accrochées, qui permettaient comme ça aux passants de lire les nouvelles. La guerre frappait aux portes. En Espagne, les troupes du général Franco avançaient. On se battait sur l'herbe. Mussolini et Hitler envoyaient des tanks, de nouvelles escadrilles, des volontaires. Pain-les-Bénis s'indignait, serrait sa manche vide, la soulevait, la montrait. Il avait laissé son bras là-bas sur les rives de Guadalajara et ça avait servi à quoi ? Voilà, pas grand-chose. Donc Tasso le maçon, qui revenait d'Espagne entier, comme il disait, racontait comment les franquistes, donc c'est l'époque fasciste italien, fusillaient les prisonniers. Quant aux Allemands, leurs escadrilles rasaient les villes. J'avais retenu le nom de Guernica et j'avais crié devant le petit Niçois, nous avions des avions pour l'Espagne, le fasciste ne passera pas. La police était intervenue, donnant ici et là quelques coups de pèlerine ou de bâton menaçant. Dispersez-vous ou on vous embarque. Mon père avait filé l'un des premiers, murmurant à ses camarades. À la banca, il travaille dans une banque, à la banca, tous fascistes, ces messieurs n'attendent que ça, un prétexte pour me balancer, pourriture d'italien. Voilà. Alors c'est vrai que Maglialo, j'avais rougi quand on lui pose la question, est-ce qu'il est français ou est-ce qu'il est italien, j'avais rougi, honteux de ne pas crier que j'étais français, que mon père l'était, qu'il avait combattu aux Dardanelles, que ses camarades avaient mis en déroute sur la Guadalajara les volontaires fascistes, que Lino, l'un de ses oncles, avait été gazé à Dieuze, qu'on l'avait décoré de la croix de guerre avec palme, que le nom de Gallo, celui de Victor, un cousin de mon père, était gravé sur le monument aux morts, creusé face à la mer, dans la colline du château de Nice, Nice française, et que mon grand-père paternel, lui, avait taillé les blocs de marbre du monument. Voilà. Je m'arrête là pour cette lecture d'un extrait de L'oubli et la ruse du diable, les mémoires de Maglialo, les dernières mémoires de Maglialo, qui est vraiment, c'est vrai, une merveille à lire. C'est beau, c'est fort, c'est déchirant. Ces mémoires de Maglialo sont sans doute son plus beau livre, parce qu'il nous touche au cœur et à la tête. Voilà, L'oubli de Maglialo, L'oubli et la ruse du diable, mémoire de Maglialo, que vous pouvez lire chez Ixo, mais aussi donc en pocket, en collection pocket. Alors j'arrête là cet hommage que je voulais rendre à ce grand Miles Diallo. Il y a bien sûr tous les récits historiques que vous pouvez trouver en librairie, chez Ixo, ou en librairie, ou peut-être en format certain, en format poche aussi, comme cet oubli et la ruse du diable. Alors pour clore peut-être cette émission, j'ai un dernier livre à vous présenter. C'est de Liane Guillaume, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Ça s'appelle « 1001 jours en Tartarie ». Ça vient de paraître aux éditions du Rocher. C'est un récit, un très beau récit. « 1001 jours en Tartarie », c'est parce que, voilà, dans cette histoire, un livre assez conséquent, un récit de voyage, parce qu'on se promène, en Tartarie, en fait, la Tartarie, il y a une carte qui est mise au début de ce livre, la Tartarie, c'est... voilà, que je retrouve la carte ici. Voilà, donc vous avez une carte avec tous ces pays de cette Europe centrale. C'est l'Ouzbékistan. Donc elle parle de villes comme Tashkent, voilà au départ, Samarcande, Boukhara, Termez, Kiva, Noukou, Moynak. Donc on circule en Ouzbékistan qui s'appelait... Au départ, enfin avant, les événements actuels, si on veut, qui s'appelait la Tartarie. Voilà. Alors, dans ce livre, dans cet ouvrage, cette femme, autour d'une table bien garnie, célèbre la journée des femmes. Et parmi elles, il y a Liane, donc l'auteur, la narratrice, seule française dans le groupe. Et toutes ces femmes, donc, c'est un peu comme dans les mille et une nuits où les contes se succèdent, comme ça on passe d'un endroit à l'autre. Eh bien ici, nous sommes à Tashkent au départ, capitale de l'Ouzbékistan, ancienne Tartarie comme on désignait autrefois cette Asie centrale lointaine et mystérieuse. Donc ça se passe le 8 mars 2014, donc c'est des événements récents. Mais on va voir dans ce livre-là à la fois un aperçu historique sur des personnages plus anciens et puis d'autres récentes. Alors donc ce sont ces femmes qui prennent la parole sous forme d'interviews et de récits croisés ou emboîtés, un peu à la manière des contes des mille et une nuits. Liane Guillaume nous entraîne dans une fresque multicolore. À la suite de ces femmes, donc de ces sept femmes, enfin six femmes et elles, d'aujourd'hui ou d'hier, anonymes ou célèbres, humbles ou puissantes, qui ont marqué et continuent de marquer l'Ouzbékistan de leur empreinte. Alors on va des harems de la route de la soie, c'est-à-dire Samarcande, Boukhara, aux businesswomen actuelles de Bibi qui est épouse du redoutable Tamerlan, quand je vous ai parlé d'histoire plus ancienne, Tamerlan, à Rano, marié contre son gré à son cousin en passant par Tamara Kanoum, première danseuse ouzbéké à se produire sur scène, ou encore Sayora, médecin de campagne sur les rives de la mer d'Aral, à la recherche de son fils radicalisé. Donc on voit bien que c'est le pays actuel, le pays bouleversé, parce que donc il y a cette culture musulmane, voilà, sur les rives de la mer d'Aral, c'est toute la réalité riche et complexe de l'Ouzbékistan, terre d'islam, mais aussi ex-république soviétique, qui se révèle à travers ses voix féminines. Voilà pourquoi je trouve que c'était très beau, ce livre-là. J'avais voulu vous lire un petit court passage. J'espère qu'on peut avoir quelques minutes. Voilà, merci. Donc, je vais pouvoir, grâce à Pauline qui m'accorde un sursis, pour vous le dire, voilà, même Katia aime la chourpa. Parce que c'est vrai qu'elle adore la cuisine, cette Liane Guillaume. Et donc, elle la connaît bien et elle l'apprécie au cours de ses voyages, de nombreux voyages qu'elle a fait. Hein, elle a été en Russie, elle a été aussi en Ukraine, en Afghanistan. J'avais lu d'ailleurs des choses qui étaient très bien d'elle sur la Russie et sur l'Afghanistan. Elle vit en ce moment à Moscou. Alors voilà, un court passage. Quand il s'agit de prendre une décision, les femmes sont plus courageuses que les hommes. Ça, c'est rien vrai. Poursuivait Chirine en déposant des mantis, sorte de raviolis fourrés aux herbes de printemps devant chacune de nous. Après notre mariage et l'épisode de la dinde, mon mari et moi sommes allés vivre chez ses parents comme c'est la tradition. On s'entendait bien, disons qu'on était bons amis. On discutait, on riait beaucoup, ça aurait pu être une union réussie, voilà, des jeunes mariés. Hélas, en Ouzbékistan, le premier devoir d'une jeune mariée est de plaire à sa belle-mère. Entre ma belle-mère et moi, c'était la guerre. Elle aurait voulu faire de moi sa servante, alors que je trimais au bureau toute la journée. Je crois qu'elle était jalouse parce que j'avais fait des études. On s'est affronté plusieurs fois. Mon mari en souffrait, car il était un petit garçon devant sa mère, et moi je souffrais de le voir souffrir. Il pensait que la naissance d'un enfant arrangerait tout, moi aussi. Mais avec l'arrivée de Roshan, la situation n'a fait qu'empirer. Pendant que j'étais au travail, ma belle-mère s'occupait du bébé. Je laissais du lait dans le réfrigérateur, et le soir, comme il avait disparu, j'en concluais qu'il avait été bu. J'ai commencé à avoir des soupçons quand j'ai vu que la petite dormait tout le temps. Elle était ballonnée, elle ne réussissait pas quand je jouais avec elle. Un jour, elle s'est même mise à respirer avec difficulté. Il a fallu que je l'emmène d'urgence chez le médecin. Un peu plus, elle mourait étouffée. On s'est aperçu que ma belle-mère lui donnait de la purée de pois chiches à la place du lait, pour qu'elle tombe malade. Cette femme voulait me culpabiliser de ne pas allaiter mon enfant et de travailler à l'extérieur. En Europe, ajoute Liane Guillaume, le mythe de la belle-mère sorcière fait partie du folklore. Mais le récit de Chirine n'était qui, je commence à m'en rendre compte, n'était pas qu'un faire-valoir de sa sœur, comme, bon voilà, me glaça, mais le récit de Chirine me glaça. En Ouzbékistan, dit Ziola, qui semblait avoir lu dans mes pensées, les conflits entre belle-mère et belle-fille sont tels que la télévision nationale diffuse des émissions sur le sujet pour aider les gens à y faire face. On appelle ça de la publicité sociale. Voilà. Je m'arrête là, mais donc ça s'enchaîne, tous ces dialogues, ces discussions d'une femme à l'autre s'enchaînent vraiment très bien. Et donc on découvre vraiment tous les aspects différents de cette vie de ces femmes qui vivent aujourd'hui en Tartarie avec des souvenirs aussi de choses un peu plus anciennes parfois. La danse, Chagall, des personnages comme ça que l'on perçoit. C'est vraiment un très très beau livre de Liane Guillaume, « Mille et un jours en Tartarie », paru aux éditions du Rocher, un récit, voilà, haut en couleur, on peut dire. Liane Guillaume qui va venir à Bourg d'ici quelques jours en ce mois de mai. Voilà, je vous laisse et je vous dis avec plaisir au mois prochain. Voilà, au revoir.